L'actualité des Alpes du Sud et suite à l'affaire des coups de feu à Gap, eh bien, comparution immédiate prévue aujourd'hui.
La procureure de la République de Gap précise que les deux protagonistes se connaissaient dans un cadre professionnel et nourrissaient un différend d'ordre commercial. Un homme avait blessé par balle un autre à la jambe. Les faits remontent à mardi après-midi.
Un skieur retrouvé mort à Seilhac, une enquête pour chef d'homicide involontaire ouverte hier.
La victime est un père de famille d'une quarantaine d'années, originaire de l'Hérault, qui était en vacances. Au moment de sa chute à 2300 mètres d'altitude, il faisait partie d'un groupe de skieurs hors piste accompagné d'un moniteur.
Catherine Vautrin rassure sur le logement.
La ministre du Travail s'est rendue à une table ronde sur l'emploi à Briançon à la rencontre des socioprofessionnels. Elle s'est positionnée notamment sur le logement social. Celle qui est aussi ministre de la Santé est attendue à Embrun ce matin.
Et puis à la découverte ce matin de l'huile de cameline.
Une huile végétale chargée d'acides gras essentiels et utilisée aussi bien pour les crèmes, pour la peau et en cuisine. Une huile issue d'une plante qui pousse très bien dans nos départements des Alpes du Sud.
Et puis le sport avec Benjamin Védrine qui a encore signé un exploit.
Après avoir gravi le K2 l'été dernier sans oxygène, le haut alpin vient de réussir l'ascension en solitaire et en hiver de la voie base au Dru dans le massif du Mont Blanc.
Et suite à l'affaire des coups de feu à Gap, une comparution immédiate est donc prévue aujourd'hui.
Des coups de feu avaient été tirés ce mardi après-midi dans Gap au niveau du centre de tri postal. Un homme avait été blessé à la jambe par un autre de 38 ans. Ce dernier avait été interpellé par la suite. L'individu mis en cause pour les faits de violence avec arme va être déféré ce matin au parquet en vue de la comparution immédiate l'après-midi. C'est ce qu'indique Marion Lezacmeur. La procureure de la République de Gap précise que la victime a une ITT importante de 2 mois et qu'il apparaît que les deux protagonistes se connaissaient dans un cadre professionnel et nourrissaient un différend d'ordre commercial.
Un skieur retrouvé mort à Seilhac, une enquête pour chef d'homicide involontaire ouverte.
Il a perdu la vie mardi en fin de journée sur la crête de la Cube à Seilhac à plus de 2300 mètres d'altitude. Selon les premiers éléments du parquet de Gap, il faisait partie d'un groupe de skieurs hors piste accompagné d'un moniteur. Les secours contactés vers 16h mardi n'ont pu évacuer le corps de la victime qui hier matin en raison du brouillard et de la neige. Il s'agit d'un père de famille d'une quarantaine d'années originaire de l'Hérault qui était en vacances sur la station, indique la procureure de la République de Gap. L'enquête a été confiée à la CRS des Alpes pour comprendre les circonstances de la chute. Une autopsie doit être réalisée à Grenoble.
Un skieur héliporté sur le centre hospitalier de Briançon après une chute sur les pistes aux ors.
Selon les premiers éléments, l'homme de 43 ans a été victime d'une perte de connaissance initiale et d'un traumatisme crânien. Il a été pris en charge en début d'après-midi hier par la compagnie de CRS de Briançon. Et puis sur la station d'Abriès-Ristola, c'est un adolescent de 12 ans qui s'est blessé à ski vers 13h. Le jeune garçon s'est blessé sérieusement en percutant un arbre selon les secouristes de la CRS des Alpes de Briançon. Son pronostic vital n'est pas engagé. Nos confrères du Dauphiné Libéré indiquent que la victime a été héliportée sur Grenoble.
Et Catherine Vautrin a donc débuté son déplacement dans les Hautes-Alpes, c'était hier à Briançon.
La ministre cumule plusieurs casquettes, celle du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Elle s'est rendue à une table ronde sur l'emploi à la CCI Hautes-Alpes Formation à Briançon. Rapidement, le thème du logement est apparu dans les échanges avec les socioprofessionnels comme étant la problématique pour les travailleurs locaux. La ministre a rappelé que le gouvernement avait resserré la vis envers Airbnb, mais aussi débloqué des mécanismes pour permettre aux jeunes d'accéder à la propriété malgré le coût élevé.
Il y a eu dans le projet de loi de finances plusieurs approches, y compris le prêt à taux zéro qui a été élargi, puisque là on est pour de la première accession qui est l'accession des personnes pour lesquelles c'est le premier achat, et on a élargi les zones de prêt à taux zéro, donc ça c'est extrêmement concret pour quelqu'un qui veut accéder. Maintenant sur le sujet du locatif, tout le sujet c'est qu'on soit en capacité de pouvoir travailler avec la commune pour trouver des endroits qui soient des endroits qu'on appelle des dents creuses, c'est-à-dire des endroits où il y a un peu d'espace et on peut construire un peu, et y compris un peu de logement social. Il ne faut pas oublier que 80% de la population française peut habiter dans du logement social. Et ça, c'est avec les communes qu'on peut en discuter, de façon à offrir des réponses de logement à toute étape de la vie. Parce que le logement, c'est un parcours. Et ce qu'il faut que nous soyons capables de faciliter, c'est le parcours résidentiel. Je commence dans le logement social, ma situation personnelle, professionnelle évolue avec mon âge et je peux à ce moment-là changer de logement. C'est un élément très important sur lequel le gouvernement s'engage parce que faut pas oublier que plus nous facilitons la construction et notamment dans le logement social, plus nous permettons aux bâtiments de travaux publics de créer de l'emploi.
La ministre est attendue ce matin à Embrun pour visiter l'hôpital. Le bâtiment va être réhabilité dans les prochains mois. Si un nouveau centre hospitalier était espéré, les terrains n'ont pas été trouvés. Le choix a été finalement de restructurer l'existant, dont certains bâtiments qui ont 2 siècles d'existence. Un choix intéressant pour la maire et présidente du conseil de surveillance, Chantal Emehoud. Cela permet de conserver l'hôpital au cœur même d'Embrun, même si cela implique forcément des contraintes pour les patients.
Le fait d'aller vers une réhabilitation complète va générer un certain nombre de difficultés pour les patients. On est en train d'y travailler de façon à pouvoir démarrer les travaux. C'est toute la difficulté, mais on va y arriver. Démarrer les travaux par l'aile qui contient peu de patients et les quelques patients qui sont seront transférés dans une aile voisine de façon à ce qu'on puisse travailler par tranche. C'est une organisation très structurée avec les hospitaliers, les architectes, les équipes techniques de façon à ce que la réhabilitation se fasse dans de bonnes conditions et ne soit pas au niveau du bruit une gêne trop importante pour les patients parce que ce sont quand même des travaux qui vont durer entre 2 et 3 ans. On conserve nos urgences 24/24, 7 jours sur 7. On conserve notre radiologie, on conserve l'ensemble de nos places et on va même pouvoir en créer davantage. Et puis également, ce secteur doit être embelli, amélioré, à la fois pour la population locale, mais également pour les automobilistes.
Il est également en réflexion de nouveaux stationnements. Le chantier de l'hôpital d'un montant de 25 millions d'euros doit débuter d'ici la fin de l'année, voire le début de l'année prochaine, pour une livraison attendue en 2029, un an juste avant les Jeux Olympiques d'hiver dans les Alpes. Une réunion publique avec la direction de l'hôpital ainsi que les architectes retenus pour mener ce projet a lieu aujourd'hui à 18h au sein de la salle des fêtes d'Embrun.
La lavande, bientôt candidate au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Une rencontre entre les présidents des départements s'est tenue mardi à Paris. Les paysages culturels de la lavande pourraient bien être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, explique le département des Alpes-de-Haute-Provence. La présidente Éliane Bareil indique que cela permettrait de consolider et de développer l'ensemble de la filière lavandicole, alors que 38% de la surface dédiée à la culture de lavande en France se trouve sur le territoire basalpin.
Et nous partons ce matin à la découverte de l'huile de cameline.
C'est une huile végétale chargée d'acide gras essentiel, très utilisée pour les crèmes pour la peau et en cuisine aussi. Une huile issue d'une plante qui pousse très bien dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Depuis Lardier et Valençat, lieu stratégique à la frontière entre les deux départements, l'huilerie des Alpes a un projet Végétalp qui consiste à développer des huiles végétale grâce aux productions bio des Alpes du Sud, dont l'huile de cameline. Aurore Valerie est partie à la découverte de cette huile.
Fini l'huile d'olive pour les salades et les poissons blancs. Place à l'huile de cameline dans vos assiettes, selon Mathieu Sourte, technico-commercial de l'huilerie des Alpes.
On a fait une journée porte ouverte ici, début décembre, et j'avais dit, en rigolant aux gens, je leur avais dit, il est strictement interdit de sortir de l'huilerie sans avoir goûté la cameline. Et donc, ils ont tous goûté la cameline et ils sont tous repartis avec une bouteille.
L'entreprise produit au total 7 huiles depuis un an. Parmi les huiles, c'est la cameline qui a la cote. Ce qui est au départ un tuteur pour les plantations de lentilles est devenu la mascotte de l'entreprise pour Antoine Ripoll, gérant de l'huilerie des Alpes.
C'est un peu notre plante favorite. Déjà, les graines vont produire une huile qui est vraiment intéressante d'un point de vue nutritionnel, qui est très riche en oméga 3. Elle a un goût qui est vraiment intéressant, qui va se rapprocher de l'asperge, du chou, mais elle a surtout aussi l'intérêt agronomique, c'est-à-dire que c'est une plante qui se cultive très bien sur le massif alpin. Et nous, c'est vraiment tout l'objet de la démarche au niveau de l'huilerie, c'est de relocaliser toute notre filière de production agricole au plus proche de l'huilerie.
Son prix, 7 euros pour une bouteille de 25 centilitres, c'est plus cher que du tournesol ou du colza, mais c'est aussi de quoi rémunérer les agriculteurs et agricultrices comme Aurore Belay, située au Sos du Lac. Elle fournit depuis 2 ans des graines de cameline à l'huilerie et y trouve son compte.
On le sème au printemps, souvent avec la lentille ou le sarrasin en double culture. Ça peut faire valoriser le champ de 30% de plus, ouais.
Car l'huilerie des Alpes souhaite avant tout bien rémunérer les agriculteurs qui produisent pour eux et en attirer le plus possible. Produire, c'est bien, en vendre, c'est mieux. Pour cela, l'huilerie tente de convaincre sur les marchés, client par client, mais aussi les cuisiniers. C'est le cas de Elisa Carotte, chef pâtissière et cuisinière spécialisée dans la cuisine végétale avec son restaurant végétarien. Fan de carottes à Gap.
Si j'ai monté mon concept, c'était aussi pour mettre en lumière les producteurs et montrer que derrière les plats qu'on mange, il y a des produits qui sont bruts. Donc pour moi, la traçabilité des produits, elle est vraiment importante. La cuisine végétale est plus économique que la cuisine animalière. C'est grâce à ça que je peux me tirer aussi un salaire. Même si du coup, le temps de transformation est beaucoup plus long que de cuisiner de la viande, il n'empêche que j'arrive quand même à m'y retrouver.
Pour l'instant, l'huilerie des Alpes bénéficie du soutien d'une dizaine de producteurs.
L'huilerie a reçu un total de 130 000 euros d'aide pour démarrer son activité, la moitié par le fonds Leader et l'autre moitié par le fonds FEADER, deux fonds fruits d'un partenariat entre l'Union européenne et la région Sud. L'agence de développement du département haut-alpin a également aidé l'entreprise.
Eh bien, lui, il vient de mettre un nouvel exploit dans son escarcelle.
Benjamin Védrine, qui avait gravi l'an dernier le K2, le deuxième sommet le plus haut du monde, sans oxygène et en moins de 11 heures, vient de réussir un autre exploit, l'ascension en solitaire et en hiver de la voie base au Dru dans le massif du Mont Blanc. Une des voies les plus difficiles, avec 1000 mètres de verticalité. Le Dromois, installé dans la vallée de Serre-Chevalier, s'était lancé le 17 février dernier pour une arrivée au sommet vendredi dernier, soit 5 jours plus tard en Parois, un projet qui le hantait depuis quelques années.
Déjà, j'ai énormément douté avant d'y aller. C'est en ça d'ailleurs que ça m'a beaucoup hanté parce que j'étais pas sûr de mes compétences, de mes capacités, de savoir si c'était vraiment une bonne idée d'y aller par rapport au danger existant qui est présent dans cette face. Et sur le moment, c'est une vraie aventure. On est face à des longueurs qu'on ne connaît pas du tout, dans lesquelles on se plonge corps et âme, mais en fait, chaque mètre se mérite. Et donc il y a eu plusieurs fois où le rocher était vraiment pas très bon et puis j'ai dû utiliser des prises qui étaient instables. J'ai failli partir avec ce rocher. L'une des compétences d'un alpiniste, c'est justement de réussir à se frayer un chemin à travers tous ces rochers douteux. Et j'ai réussi à, comme on dit, un petit peu prendre de la hauteur dans ces moments-là et retrouver un petit peu tous mes moyens pour pouvoir grimper, comme on dit, comme un chat. Mais ça a été vraiment difficile, ouais. Ça a été très difficile. À pas mal de sections par rapport à ce rocher-là.
Benjamin Védrine prévoit de repartir au Népal à l'automne pour ouvrir un nouvel itinéraire sur un sommet de plus de 7500 mètres d'altitude. C'est ce qu'il explique sur Alpe 1.
Vous êtes témoin d'un événement ? Contactez la rédaction sur alpe1.com ou au 04 92 40 12 20.